Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 26 juin. Bienvenue dans l'invité du 12-13, l'émission qui vous parle des initiatives locales portées par des femmes et des hommes qui œuvrent pour l'intérêt du territoire. Et aujourd'hui, nous allons parler permaculture, environnement, écologie, puisque nous avons le plaisir de recevoir deux jeunes femmes dynamiques en la personne de Julie Bernier et de Laurie Debove du jardin du Petit Bartotte à Cabreton. Bonjour mesdames et bienvenue dans notre émission.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Julie, Laurie, on se quitte tout de suite, deux petites minutes pour se retrouver juste après. C'est l'heure d'écouter le Flash Info national et international. Et on se retrouve juste après, on s'en vient dans deux minutes.
Souvenir FM.
Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
Et on démarre notre émission du jour avec Julie et Laurie du jardin du Petit Bartotte à Cabreton. Alors nous allons bien sûr, mesdames, prendre le temps de parler du jardin que vous avez créé, Julie, de parler aussi de permaculture, d'environnement. Mais avant cela, il faudrait que vous vous présentiez au traditionnel exercice donc de l'auto-présentation. Voilà, la présentation des invités par les invités. C'est la coutume dans l'invité du 12-13. Donc, nous demandons aux invités de choisir par leurs mots la manière de présenter leur trajectoire personnelle. Alors, qui veut démarrer peut-être, Julie ? Allons-y.
Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Julie Bernier, je suis conférencière, formatrice, autrice, notamment sur les sujets de la permaculture, donc des manières de cultiver tout en régénérant la nature. Voilà, et du coup, je suis à l'origine du jardin du Petit Bartotte à Cabreton, qui est un jardin éducatif associatif, conjointement mené avec Laurie Debove ici présente.
Qui va se présenter également, Laurie. Bienvenue.
Bienvenue, merci. Je sais pas pourquoi je dis bienvenue.
Bonjour.
Je m'appelle Laurie Debove. Je suis rédactrice en chef d'un média indépendant et maison d'édition spécialisée dans l'écologie qui s'appelle La Relève et la Peste. Je suis cofondatrice de l'association du Jardin du Petit Bartotte avec la formidable Julie Bernier. On est arrivés ensemble sur le territoire pour faire un lieu de autonomie alimentaire et de convivialité. Et du coup, c'est assez réussi, je trouve, avec ce projet dont on va vous parler.
Voilà, le jardin donc, du Petit Bartotte qui se situe sur la commune de Cabreton. Ça a commencé par un petit terrain, puis un plus gros terrain. Et qu'est-ce qui s'y passe dans ce jardin merveilleux ? Racontez-nous un petit peu son histoire.
Alors ça, c'est plutôt mon histoire du plus petit au plus gros terrain. Ouais. Moi, j'ai commencé à cultiver il y a 8 ans sur un petit balcon.
Oui.
Et 2 ans et demi ou 3 ans plus tard, je gérais avec 8 personnes plusieurs hectares sur un projet un peu plus dans le nord des Landes. Et finalement, quand moi je suis tombée folle amoureuse de Cabreton il y a quelques années, et quand j'ai décidé de venir m'y installer, mon but c'était vraiment d'être le plus proche de Cabreton possible. Et pendant 2 ans j'ai cherché et j'ai trouvé justement ce terrain qui était beaucoup plus à taille humaine que plusieurs hectares, parce que vraiment plusieurs hectares, c'est un travail monstre. Et donc voilà, c'est un jardin de 4000 mètres carrés.
Il y a une forêt aussi.
Absolument, qui est dans la forêt de Cabreton. Donc c'est un îlot, c'est absolument extraordinaire, et vraiment on se le dit très souvent, et où on a essayé de conserver un maximum justement les arbres, les très grands arbres à canopée. Donc on cultive un peu sous les arbres, ce qui au demeurant serait pas très pratique pour la plupart des gens. Mais en fait, quand on a des températures comme ça, les températures actuelles, on est très très content d'être dans justement cet îlot de fraîcheur au milieu de la forêt de Cabreton.
Donc une association qui a été montée, un jardin qui a été créé, c'est un lieu de vie quoi aussi. C'est, effectivement, on y cultive des légumes, on peut venir y prendre des cours ou des conseils, des choses comme ça. Mais c'est avant tout un lieu de vie et de partage, c'est ça ?
Oui, effectivement, c'est un peu ce qu'on s'est dit assez rapidement suite à la création de l'association. Le but initial du jardin, c'est vraiment de la pédagogie autour de la régénération des sols et des différentes façons de cultiver. Et très vite, c'est devenu un tiers-lieu, donc au sens noble du terme, c'est-à-dire un lieu où les liens humains ne sont pas conditionnés par des échanges marchands. Et c'est trop chouette parce qu'on a quand même 80 adhérents, je pense, là, dans l'association actuellement.
Plus de 120 bénévoles là, depuis 5 ans.
Ouais.
Et effectivement, on rencontre beaucoup de personnes qui ont besoin de liens humains, de trouver des personnes qui leur ressemblent, d'échanger autour de valeurs qui leur sont chères. Et on est trop contents en fait, de pouvoir être cet espace de douceur pour eux.
C'est le bouche à oreille qui fait que les gens viennent vers vous ou, vous avez aussi des outils, vous êtes de la génération réseaux sociaux. Ça a été à un moment même un peu votre métier, j'ai cru comprendre. Donc vous avez... des réseaux sociaux, etc., qui montrent un petit peu ce que vous faites. Mais je crois qu'à force de faire des belles choses, organiser aussi des événements, etc., le bouche à oreille commence à fonctionner. Et donc, du monde vient dans ce jardin. Alors, vous avez employé le mot permaculture. Effectivement, vous êtes une spécialiste de la question, on peut le dire, Julie. Vous avez notamment écrit un livre sur le sujet. Laurie parlait du respect, de la préservation, de la qualité des sols, de la régénération. Est-ce que vous voulez vous tenter une petite définition de la permaculture ? On l'entend, mais on n'est pas forcément, au fait de tout ça.
Oui, alors la permaculture dans le sens global du terme, c'est à la fois une philosophie et une méthode pour concevoir des projets dits durables. Et donc, ce qui est durable, c'est un projet qui répond aux besoins de ceux qui l'ont créé, tout en régénérant la biodiversité, la qualité des sols, la terre, puisqu'on ne peut pas avoir un projet durable sur une planète morte, globalement. Et le tout avec le moins d'énergie possible. Donc, moi, j'enseigne comment faire le plus de nourriture possible, avec le moins d'efforts possible, en étant le plus fainéant possible. Donc ça, je trouve ça formidable. Mais c'est vraiment quelque chose de très global, la permaculture, et notamment quelque chose qui nous tient à cœur, et particulièrement à Laurie, si je peux prendre les mots de ta bouche, c'est aussi que on a une dynamique de s'inscrire dans une toile associative et agricole qui est déjà présente.
Oui.
Et on a notamment mis en place plusieurs choses pour vraiment participer à l'ADN landais, que ce soit d'un point de vue végétal ou des savoir-faire, si tu veux dire un peu plus de choses.
Bah sur le végétal, on a par exemple trouvé un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Bonnet et qui préservait des espèces d'arbres fruitiers endémiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a incorporé des pruniers, des pommiers, des poiriers qui sont endémiques de Nouvelle-Aquitaine au jardin. Aussi grâce au conservatoire du CPE, du Seignance, on a pu récupérer de la vigne Noah, qui est vraiment la vigne endémique de ce territoire-là très précis, bien plus que la région Nouvelle-Aquitaine, donc Sud-Land. On a aussi des petits fruitiers, des framboisiers, des mûriers sans épines qui viennent du Seignance, du maïs roux qui vient du Seignance. Donc voilà, on a fait un peu aussi un travail de collecte et de valorisation du patrimoine végétal, parce que ce sont des espèces qui sont mieux adaptées aux conditions pédoclimatiques du jardin, c'est-à-dire à la fois du sol, des nutriments, mais aussi des conditions météorologiques.
Donc votre jardin, c'est un peu un laboratoire, finalement.
C'est aussi un laboratoire d'expérimentation, mais en fait, ce que vient de dire Laurie, c'est précisément ça, la permaculture, puisqu'on se dit comment je peux cultiver le plus avec le moins d'efforts possible. Et bien en fait, la conservation et l'utilisation d'espèces locales, au-delà du fait que c'est important de les conserver, ben en fait, c'est aussi une très très bonne manière de cultiver avec moins d'efforts. Donc on a tout intérêt à le faire.
Absolument. Et alors, d'où vient ce nom Bartot ? Je crois qu'il y a une histoire de Barthes dans tout ça, qui est aussi un espace paysager un peu spécifique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il en existe plusieurs, évidemment, partout en France ou en Occident. Mais dans les Landes, on les appelle les Barthes. Vous avez fait une enquête, d'ailleurs, pour votre journal.
Oui, alors je l'ai fait pour le magazine Wave de Wave Radio, cette enquête, parce que c'est un partenariat que L'Arbre, la Peste et Wave ont fait chaque année. Et là, en gros, le jardin du Petit Bartot se situe au lieu-dit du Petit Bartot, parce qu'effectivement, c'est une zone normalement inondable. On a des Barthes, donc qui sont des zones humides. Les Barthes, ce sont des zones humides qui se caractérisent par l'usage humain et agricole qui est perpétué dessus. Donc, dans les Landes, quand on parle des Barthes, ce sont des espaces qui restent aménagés par l'homme, malgré le fait que ce soit des zones humides. Donc, on peut trouver les tonnes des chasseurs qui vont appeler les canards. On a pu trouver des agriculteurs, certains continuent, comme le jardin du Petit Bartot, mais comme aussi le maraîcher Mathieu du jardin Fleur de Vie à Cabreton, qui cultive vraiment sur des Barthes. Moi, j'ai rencontré un vieil agriculteur à la retraite maintenant qui s'appelle Georges. Et lui, il faisait pâturer ses vaches dans les Barthes jusque dans les années 70-80, et puis il a arrêté. Et maintenant, il fait du peuplier. Donc, il y a de la plantation de peupliers dans les Barthes.
Dans ces zones humides,
c'est très peu connu, mais ça existe.
Qui, de manière générale, alors que ce soit des Barthes ou d'autres types de zones humides, des roselières, des choses comme ça, sont primordiales pour la diversité biologique, à la fois du vivant faunistique et floristique, et qu'il faut souvent préserver. Effectivement, les Barthes, donc, vous dites que ça, c'est des lieux où, qui sont humanisés, anthropisés, mais qu'il faut quand même savoir préserver. Quelles sont les espèces propices justement à ces milieux de Barthes les plus propices. Alors,
c'est des espèces de zones humides, mais en fait, là, ce que je voudrais dire sur l'importance écologique des barthes, ouais. c'est que c'est des zones humides. Donc, des zones humides, elles participent directement à la régulation du cycle de l'eau, ce qui est hyper important vu l'état du dérèglement climatique actuel. Mmh. Elles stockent aussi le carbone plus facilement dans le sol. Et il faut savoir qu'en fait, avant, des centaines d'années avant, la France, elle était composée à un tiers de zones humides. Et en fait, les Landes, elles étaient quasiment intégralement constituées de zones humides. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la loi Colbert de 1857 sur l'assainissement des marécages,
oui.
qui est en fait un faux prétexte historique pour pouvoir cultiver du bois, pour faire des bateaux et s'enrichir. Ça, j'en parle dans oui. cette enquête que je vous invite à lire. Non, mais c'est vrai. Hein.
Ah, oui.
J'ai retrouvé des
vous avez fait un gros travail de recherche historique. Hein.
Ouais, d'historien, de Jules Verne même à l'époque, qui faisait un état des lieux des Landes dans les années 50, à quoi ça ressemblait, etc. Et en fait, les Landais étaient certes besogneux, mais ils n'étaient pas en plus mauvaise santé qu'en Sologne, où oui. il y avait aussi le paludisme, par exemple. Et certains Landais vivaient jusqu'à l'âge vénérable de 100 ans.
Mmh. Donc, il y a des centenaires ouais. qui étaient effectivement répertoriés dans les archives, etc.
Exactement.
Et donc c'est un peu une légende de dire que habiter dans ces zones un peu humides et marécageuses sont et mal salubres sont mauvais pour la santé.
Voilà. Et en fait, c'est pour ça que je voulais faire ce lien-là. Mmh. L'homme a eu pour habitude d'aménager les espaces naturels et le territoire oui. à son image et selon ses besoins. Et quand vous me posez la question sur quelles sont les meilleures espèces qu'il faut pour les barthes, ben en fait, il faut plutôt encourager celles qui veulent bien revenir maintenant. Il y a quand même des problématiques d'espèces invasives. Donc localement, c'est la jussie qui ressemble un peu au pourpier pour les gens qui voient ce que c'est, cette petite plante grasse rampante sur le sol qui a un peu tendance à envahir. Donc ça, le syndicat mixte des rivières oui. Côte-Sud et puis aussi les gens qui possèdent des parcelles de barthes essayent de la réguler. Là, il y a un monsieur qui a fait une expérimentation avec des mmh. chevaux qui broutent la justice. Mmh. Donc, a priori, ça, ce serait une bonne piste. Mais il ne faut pas non plus chercher à tout contrôler.
Oui, bien sûr.
Et notamment parce qu'on est dans une phase de bouleversement climatique énorme. Il oui. faut savoir que la moitié des espèces sur Terre ont commencé à migrer vers le nord. La moitié de toutes les oui. espèces qu'on étudie. Et souvent, l'autre moitié, pourquoi elle ne l'a pas fait ? Parce qu'elle ne peut pas. Mmh. Si elle est coincée dans des micro-habitats ou des choses comme ça, sur les espèces aquatiques, c'est très compliqué de se déplacer s'il y a des espaces trop secs entre chaque espace humide. Et donc là, si on veut aider le cycle de l'eau et si on veut aider les barthes et les zones humides, ce qu'il faut vraiment faire, c'est reconnecter les nappes alluviales. Et ça, j'en parle dans le livre journal Eau, pour le coup, de la relève et la peste, avec des barrages castors.
La relève et la peste. Effectivement, j'invite tous les auditeurs à aller voir de quoi il s'agit. Ce sont des articles à la fois bien écrits, qui sont bien renseignés, et puis le journal en lui-même est aussi très agréablement, je dirais, disposé d'un point de vue graphique. Mesdames, on est déjà à l'heure de la première pause. C'est très bien, vous avez beaucoup de choses à dire, j'en suis ravi. On se quitte en musique. Pascal Obispo et Francis Cabrel à venir. On va se régaler non, à dans quelques minutes pour la suite de nos échanges.
Économie, sport, environnement politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et nous voilà de retour avec Julie et Laurie du jardin du Petit Bartot à Cabreton. Alors nous sommes quittés sur la brillante description de Laurie qui nous exposait la qualité des écosystèmes des Barthes en bordure d'Adour. Parlons changement climatique maintenant, il fait de plus en plus chaud, hein, là, c'est plus un secret, hein, nous le constatons tous les jours, pas plus tard que cette semaine, là, on l'a bien senti ici dans les Landes. Est-ce que les espèces et les sols sont voués du coup à migrer, à changer avec ce climat qui se réchauffe? Est-ce que vous le constatez, vous, quand vous jardinez, etc. Comment ça se passe?
Là, comme Laurie disait, on voit que la moitié des espèces sont en train de migrer vers le nord. Mais en fait, nous, on n'est pas en train de migrer vers le nord. Nous, on doit continuer à cultiver sur notre... un point de vue local.
Oui.
Donc la question, c'est plutôt comment nous, on fait pour adapter nos cultures à ce dérèglement climatique, pour moi. Et donc pour ça, on a plusieurs manières d'y répondre. Donc la première, c'est ce que je disais, on a essayé de garder la canopée, donc de continuer de, enfin pour continuer de cultiver, on va devoir créer des espaces d'ombre. Là, nous, on cultive partiellement sous les arbres. Oui. Évidemment, les végétaux, ils ont toujours besoin de soleil pour grandir, mais on apporte quand même cette grosse source d'ombre. La deuxième chose qu'on fait, et qui pour moi est vraiment très 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 importante et au centre des problématiques agricoles, c'est qu'on reproduit nos semences d'année en année.
Oui.
Donc ça a l'air de rien, oui. Mais en fait, les semences paysannes particulièrement, oui. quand on va les reproduire, elles vont s'adapter petit à petit, leur ADN va se transformer et chaque année, on a comme ça des plants qui sont de plus en qui sont adaptés,
oui.
De plus en plus adaptés à nos sols, à nos climats. Justement, si on a réussi à avoir des fruits juste après cet épisode caniculaire là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend les tomates, on prend vite les semences et en fait petit à petit comme ça on crée des variétés qui sont plus résistantes aux canicules, qui ont besoin de moins d'eau potentiellement pour grandir, etc. Donc ça pour nous c'est très 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 important et je le fais assez religieusement depuis plusieurs années et donc ça pose aussi du coup un questionnement qui est plus global. Oui. Comment on fait dans l'agriculture conventionnelle, puisqu'on utilise beaucoup de graines dites F1, qui, elles, ont un ADN qui dégénère. C'est-à-dire on les utilise une fois, une année, on a des très beaux fruits, ils sont superbes, ils sont tous pareils, on les récolte tous au même moment, voilà, on a des machines
calibrées.
Voilà, tout est calibré. Par contre, l'année d'après, on ne peut pas les réutiliser, donc il n'y a pas cette intelligence de la graine qui est faite, puisqu'on a justement une dégradation de l'ADN. Donc nous, non seulement on lutte contre ces hybrides F1, mais en plus, vraiment, on essaie de sortir de ces logiques et d'adapter par ce biais-là nos plans. Et puis après, en permaculture, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse à ce que fait la forêt. Parce que les forêts, c'est les milieux les plus productifs au monde. Et pourtant, il n'y a personne qui les arrose. Il n'y a personne qui vient y mettre des pesticides, des fongicides, je ne sais pas, les tondre. Donc en fait, ce qu'on voit dans les forêts, c'est que, par exemple, le sol est toujours couvert.
Et recouvert, oui, bien sûr, d'humus, ce genre de choses, de matière en décomposition.
Des feuilles qui tombent, des petits branchages, etc. Mm-hmm. Donc nous, dans les zones cultivées en permaculture, on va faire la même chose. On va mettre des paillages qui sont très épais, jusqu'à 20 cm, et qui vont permettre de garder notamment un niveau d'humidité peu près constant dans le sol. Et puis, ce que la forêt fait aussi, c'est de cultiver en strates de culture. Et donc, pareil, dans nos jardins potagers, on va faire un peu la même chose. On va avoir des grands végétaux, même parfois des arbres, qui vont créer un petit peu d'ombre sur des végétaux qui sont moins enclins à résister au soleil, qui vont, eux, créer encore plus d'ombre pour des végétaux qui, eux, ont besoin d'être quasiment à la mi-ombre. Donc, en fait, on s'inspire de ce que fait la forêt. On n'a rien inventé.
Du bon sens de la nature.
Exactement. Pour cultiver et justement pour se prémunir des difficultés liées au changement climatique, ce qui ne veut pas dire, attention, c'est pas une question de choix individuel, hein. Globalement, on a aussi vraiment besoin d'un effort politique et d'une vraie lutte,
oui,
contre le dérèglement climatique, parce que globalement, on subit, hein, quand même. Là, c'est très grave ce qui s'est passé cette semaine par rapport aux cultures. Aucun végétal ne peut survivre à partir d'un certain...
Oui, on a beau mettre en place des systèmes de sauvegarde ombragère, etc. C'est toujours difficile, effectivement, sur ces chaleurs qui vont être vouées, en plus, à être répétées, de maintenir une qualité du sol, en l'occurrence, qui produit les espèces, etc.
D'autant plus que les espèces végétales sont plus fragiles que nous, humains,
oui.
Et du coup, quand elles subissent un stress thermique pareil, ça va se répercuter des semaines après, même si les températures redescendent, dans leur organisme, leur façon de fructifier ou d'avorter les fleurs, etc. etc. Donc, on dit toujours que les paysans sont en première ligne du dérèglement climatique, et c'est particulièrement vrai en France, parce que la France est le premier pays d'Europe le plus touché par le dérèglement climatique. Et ça s'explique par notre position géographique, où on accroche un petit peu tout ce qui arrive depuis la façade atlantique par rapport au reste de l'Europe. Donc on est clairement en première ligne, en fait.
D'accord, donc, et d'où l'importance effectivement à vos petites échelles, comme dans le petit jardin pédagogique que vous gérez, d'œuvrer à petit niveau, de montrer les bonnes pratiques et les manières de préserver effectivement la biodiversité dans son ensemble de ces stress climatiques. On se quitte une dizaine de minutes pour un petit peu de musique et le flash info local, cette fois-ci, de Jean-Philippe Dandurand. À tout à l'heure, mesdames. Et nous revoilà dans l'invité du 12-13 avec le Jardin du Petit Bartot, une émission placée sous le signe de l'écologie. Donc le Jardin du Petit Bartot à Cabreton, c'est un jardin pédagogique spécialisée notamment en permaculture. Alors Julie, nous sommes aujourd'hui largement dominés par un système d'agriculture dite conventionnelle qui est productiviste. J'ai une question à vous poser. Si demain, par le plus grand des miracles, nous arrivions à remplacer cette agriculture conventionnelle à l'échelle du pays, par, de la France, quoi, par un système où, agricole où la permaculture dominerait, est-ce qu'il y aurait à manger pour tout le monde ?
Alors c'est une question qui est très large.
Oui.
Je pense que j'ai deux choses à dire avant d'y répondre.
Ouais.
La première, c'est que l'agriculture telle qu'on la conçoit maintenant, l'agriculture conventionnelle, c'est un héritage d'histoire des guerres en France. Hein. Et vraiment, à la sortie de la guerre, quand se passe cette révolution verte, eh ben, il n'y a plus beaucoup de personnes hein, pour nourrir la France. On avait vraiment besoin d'une mécanisation. On se retrouve aussi avec plein de produits chimiques issus de la guerre qui retrouvent un débouché dans notre agriculture justement. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que elle a été conçue à un moment où potentiellement on en avait besoin.
Oui.
Et sans prendre en compte évidemment ce que ça pouvait avoir comme impact à plusieurs dizaines
comme conséquences sur l'environnement et tout. Ouais.
Parce que en fait, il y avait une urgence. Mmh. C'était évident, même un verre de lait de vache, ça pouvait sauver un enfant. Enfin, voilà. Donc on était vraiment dans un autre type d'urgence. La deuxième chose, c'est aussi que je ne tape pas du tout sur les agriculteurs parce qu'ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Ils ont un des métiers les plus difficiles qui existent. Personne ne les écoute, ils sont très peu soutenus. Les financements, ils sont absolument délirants. Et justement, quand on veut faire les choses bien, c'est très difficile d'être aidé. Notamment l'aide de la PAC qui est liée à la surface qu'on cultive.
Oui, donc on est obligé d'avoir des grandes exploitations.
Et voilà. Plutôt que justement aux capacités et aux valeurs environnementales ou sociales d'une exploitation.
Oui,
donc
oui,
c'est vraiment un système qui n'est pas fait pour eux. Donc ça, c'était les deux choses que je voulais dire.
En introduction.
Ouais, oui, absolument. Maintenant, donc si on partait sur un système qui est uniquement en biologique, en maraîchage sur sol vivant, en permaculture, tout ça en même temps, ça demanderait en fait de changer drastiquement plusieurs pans de notre vie.
Et de nos modes de vie.
Et de nos modes de vie. Mmh. Le premier, c'est que là, on a très très peu d'agriculteurs. Je crois qu'on a 230 000 agriculteurs, je ne sais plus très bien. En tout cas, on a perdu énormément d'agriculteurs puisque les exploitations sont de plus en plus grandes. Mmh. Et ça, pour que ça fonctionne, une agriculture qui soit plus vertueuse, il faudrait environ que 10% de la population devienne agriculteur.
Il faudrait plus de 6 millions d'agriculteurs.
Alors, ouais, en fait, c'est vraiment...
Non, mais c'est intéressant.
Je dis ça, bien sûr, oui, donc je ne suis pas spécialiste, je ne fais pas partie de l'INRA, bien sûr. Mais globalement, la permaculture, notamment, elle peut être aussi productive, voire plus productive que l'agriculture conventionnelle. Mais par contre, elle demande plus de moyens humains. C'est notamment des scénarios qui sont étudiés par l'INRA dans des fermes test.
Oui.
Je pense notamment à la ferme du Bec-et-Loing en région parisienne. Mais donc voilà, on voit que c'est vraiment une manière différente de concevoir l'emploi.
Parce qu'il faudrait aussi donc, des exploitations qui sont considérablement réduites, plus
Absolument.
Petites, pour pouvoir les gérer avec des mains et pas trop de mécanisation, même si la mécanisation, sur certains points...
Alors,
bien
sûr.
La permaculture, c'est considéré comme zéro mécanique
ou... Non, on fait le moins possible.
Oui.
Et en fait, parfois, on a besoin de mécanisation sur certains gestes précis. Même en bio-intensif, on utilise certaines machines. On essaie qu'elles soient les plus légères possibles.
Oui.
On essaie de le moins le faire possible. Et surtout, on essaye aussi de protéger les sols. Donc, par exemple, c'est bête, mais on va essayer de ne pas passer nos machines le lendemain d'un moment où il a plu, parce que ça peut vraiment dégrader les sols. Plus ils contiennent d'argile, plus ils sont susceptibles d'être atteints par justement le poids des machines. Donc, la mécanisation, c'est pas... Il n'y a pas la mécanisation zéro ou l'agriculture conventionnelle. Il y a vraiment... c'est vraiment très 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 nuancé. Il y a tellement un panel immense de manières très positives de faire de l'agriculture. Donc ça, c'était la première chose, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup plus d'emplois dans l'agriculture.
Oui.
La deuxième chose, c'est qu'il faudrait considérablement réduire notre consommation de produits animaux. Puisque,
ah oui.
Ouais, absolument. Mais à titre d'exemple, on a 91 à 96% du soja dans le monde qui est produit, qui va à destination du bétail. On a 50% du maïs. C'est vraiment énorme.
Mmh.
Et donc, si à la place de faire pousser des céréales pour les donner à des bêtes qu'ensuite nous on mange, on les mangeait directement, soit les céréales, soit on utilisait ces espaces faire pousser des fruits, des légumes ou autres. On nourrissait directement l'humain, en fait. On aurait.
Il gagnerait là-dessus.
Ouais. Absolument, on aurait quand même beaucoup.
Parce qu'effectivement, l'élevage. En plus, c'est très consommateur d'espace. Hein, en plus d'espace à cause de
justement
nourriciers.
Exactement, c'est le fait qu'on cultive des céréales pour les donner à des animaux qui consomment de l'espace, pas forcément juste parce qu'on a des bêtes qui pâturent. Hein, c'est pas forcément les pâturages.
Et d'ailleurs, autre question, ça m'y fait penser un petit peu comme ça au vol, Julie. Mais est-ce qu'il est alors quand on parle de permaculture à l'esprit, un béotien comme moi pense forcément à du maraîchage ou des espèces végétales. Est-ce qu'il existe une forme de permaculture pour l'élevage d'ailleurs ou un système, ça s'appelle pas peut-être permaculture, mais un mode d'agriculture extensif et je dirais écologique, environnemental
bien
pour
sûr,
l'élevage.
Ouais. Absolument. Et d'ailleurs, les animaux, ils sont vraiment très importants dans les systèmes permacoles. C'est ce qu'on appelle de la polyculture élevage. Donc on va utiliser justement ce que font les animaux pour le bénéfice des cultures. Notamment, j'ai des poules, elles font du guano, elles ont des excréments, on réutilise les excréments, elles vont peut-être aller gratter le verger, enlever plein de petites
parasites,
vermines, des parasites qui seraient dans le verger. On se sert de la nature, on essaye de créer des écosystèmes qui s'autosuffisent. Et en fait, ces écosystèmes, ils ne sont complets que quand on intègre toute une biodiversité qui par ailleurs est florissante quand on la laisse vivre. Par contre, cette biodiversité, on peut aussi décider de la laisser vivre un peu plus longtemps aussi, ou juste dans l'absolu la laisser vivre. Donc globalement, il y aurait un changement de taille, de taille des exploitations, beaucoup plus de personnes dans l'agriculture
et un changement de pratique alimentaire,
etc.
Très bien, mais merci pour cette réponse de haute qualité. Julie, vous avez donc aussi une casquette d'autrice.
Oui.
Vous écrivez, vous avez notamment écrit un livre sur la permaculture, même deux, il me semble, livre sur la permaculture. Au jardin du petit Bartot, vous éditez aussi des panneaux, un petit peu panneaux synthétiques, pédagogiques, autour de la permaculture. Et alors, en me penchant un petit peu sur ces panneaux, j'ai vu des termes un petit peu saugrenus, un jardin en trou de serrure, la milpa, la spirale aromatique, les buttes. Les associations de plantes, etc. C'est un petit peu tous les panneaux thématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin en trou de serrure ?
Alors, un jardin en trou de serrure, c'est tout bête. C'est un jardin qui a un peu la forme d'un trou de serrure et au centre de laquelle on va trouver une zone de compost. C'est une technique qui nous vient d'Afrique, de l'ONG Send a Cow, qui s'est rendu compte que si on mettait à composter au centre d'une zone de culture, on pouvait bénéficier au niveau de la surface cultivée de l'humidité et des nutriments qui sont contenus dans le compost. Donc ça, c'est trop intéressant, notamment parce que justement, on va vers un climat de plus en plus aride.
Sec, ouais.
On peut absolument s'en inspirer. Et en fait, globalement, dans le jardin du petit Bartot, on essaye de montrer tout plein de techniques différentes qui peuvent s'adapter à tout plein de climats, de personnes différentes et qui vont avoir plus ou moins de temps au potager, qui vont avoir envie de ceci, de cela, d'arbres fruitiers, de fleurs comestibles, etc. Le but, c'est qu'en tout cas, quand les gens viennent, ils repartent en se disant « Ah, moi, j'aimerais bien faire ça dans mon jardin. Ça, c'était joli, c'était productif, c'était chouette. »
Et alors, est-ce que c'est compliqué de faire de la permaculture ou est-ce qu'il y a des trucs hyper simples pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont un bout de jardin, qui s'en frichent un petit peu, même si c'est bien les friches, il y a de la biodiversité qui s'y met. Mais si, quelqu'un a 50 mètres carrés de potager à faire, est-ce qu'il peut facilement faire de la permaculture et quels sont, les trucs et astuces, les trois, quatre petites astuces à avoir en tête?
Alors on peut tout à fait faire de la permaculture, même sur un balcon, moi c'est ce que j'ai fait au tout départ. Et globalement, les astuces, ce serait de s'intégrer d'abord dans son écosystème, c'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va observer ce qui se passe autour de soi, quelle luminosité j'ai, est-ce que j'ai un accès à l'eau facile, quel est le climat, etc., pour choisir ensuite ce qu'on va pouvoir planter. Donc pour être le plus fainéant possible en produisant le plus possible, on va essayer de choisir des choses qui sont vraiment... l'environnement dans lequel on cultive répond aux besoins des plantes.
Le sol aussi, j'imagine, qu'on va analyser un peu le sol qu'on a. Est-ce qu'il est sableux, argileux, etc.
Absolument. Ouais. Et en fait, ça, c'est super chouette parce que peu importe les qualités de notre sol, l'unique manière, en fait, d'améliorer un sol, c'est de lui apporter de la matière organique.
De faire vivre, ouais.
Et donc, on va venir apporter soit du fumier, soit du compost, soit la tonte d'herbe qu'on vient de... Oh, je sais pas, on vient de faire une petite allée justement dans notre friche. Tout ce qui est dans le jardin reste dans le jardin, peu importe sa forme. Donc ça, c'est vraiment le, bah, ce que la forêt fait, hein, globalement.
Et qu'est-ce qui pousse le mieux, alors, au jardin des petits Bartotes, là, sous nos contrées, sous notre climat ou
Qu'est-ce qui pousse le mieux les concombres, ça pousse très bien. On a eu beaucoup de salades en début d'année. Là, on a plein de tomates. Les tomates sont superbes. Le maïs fonctionne très bien, puisque comme on est dans des Bartes, justement, c'est très humide. On a un accès très facile à l'eau. Bah là, c'est trop bien. Le maïs, je l'ai arrosé deux fois. Il pousse tout seul, entre guillemets, puisque justement, c'est adapté à l'environnement. Et le dernier conseil, je dirais, que c'est vraiment ajouter systématiquement dans son jardin des aromates et des fleurs. Plus il y a de couleurs, plus il y a d'odeurs, plus il y a de biodiversité. Et plus il y a de biodiversité, plus on a un sol en bonne santé et un écosystème en bonne santé qui va réguler à peu près tout. Donc nous, on n'aura pas à aller à la chasse
et qui fera des fruits et légumes, mais en plus de qualité, parce que bon, les tomates des grandes surfaces, on n'en aura pas. Il y en a des bonnes, mais il y en a des fois qui sont pas très goûteuses. Et quand on a des tomates du jardin qui sont bonnes, on se dit il faudrait que j'en fasse plus.
On est fiers.
Par exemple. Ouais, exactement. Merci Julie. On fait notre dernière petite pause et on se retrouve pour la conclusion de notre émission avec peut-être deux trois autres petits trucs et astuces liés à la permaculture. Et puis on parlera aussi un petit peu de l'agenda ou de ce que vous pouvez proposer au jardin du petit Bartotte dans les prochaines semaines et prochains mois. On se quitte avec deux petits morceaux de musique et on se retrouve après. À tout à l'heure.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Julie Bernier est encore avec nous dans l'invité du 12-13 sur Souvenir FM. Alors, le jardin du petit Bartotte, Julie, c'est, on l'a vu, vous l'avez brillamment exposé, des démonstrations de permaculture pour ceux qui veulent se renseigner sur ces choses-là, mais c'est aussi un espace de solidarité. Voilà. Vous avez notamment, vous nous l'expliquez un petit peu hors antenne, une boîte de solidarité. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne.
Nous, on est vraiment pas maraîchers dans l'absolu. On vend pas nos légumes. On les donne aux bénévoles qui viennent, aux personnes qui cultivent. Bah, moi, par exemple, j'en prends, etc. Mais parfois, on a des excédents. Et dans ces cas-là, on les met justement dans cette boîte de solidarité. Donc, c'est vraiment un petit stand qui est juste devant le jardin. L'idée, c'est que nous, on met nos produits et puis, en fait, on part. Donc, les prix sont à... Les légumes ou les choses qu'on y met, les plants ou autres, sont à prix libre. Les personnes qui ont plein de sous et qui veulent être très solidaires avec l'asso mettent plein de sous. Et si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez quand même prendre les légumes ou les fruits à prix libre.
Oui, belle initiative, une belle manière aussi de voir la société par l'échange. Alors, c'est pas vraiment du troc, mais bon, les prix libres, effectivement, c'est aussi des pratiques, à mon avis, qui se sont faites pendant très longtemps, qu'on a un peu oublié.
C'est un système de confiance.
Oui, voilà.
On nous avait dit que ça nous... Que ça marcherait jamais parce que les Français, je sais pas quoi. Et en fait, non seulement ça a très bien marché, mais en plus, des sous, souvent les personnes nous laissent des petits mots. Et donc pour nous dire juste des mots d'amour. Donc en fait,
ouais,
de A à Z, ça a été vraiment une super aventure, cette idée.
Alors l'émission touche bientôt à sa fin, il nous reste quelques petites minutes. Julie, c'est le moment de nous parler un petit peu de l'agenda du jardin du petit Bartotte, savoir un petit peu... peut-être ce que vous avez déjà un peu proposé et ce que vous proposerez dans le futur, à Cap-Breton, un petit peu dans la forêt, c'est ça, vous êtes
Ouais, c'est ça, vers la zone des Deux-Pins, voilà. À Cap-Breton, juste après les pompiers. Alors globalement, nous, on fait des visites libres, donc sur réservation, ou visites commentées aussi sur réservation, et là... on passe vraiment une heure et demie ensemble, je vous montre tout, on parle de permaculture, c'est super. Je donne des stages aussi aux petits Bartotte, mais qui reprendront que en septembre. Tout cet été, tous les mercredis après-midi, pareil sur réservation, on va faire 3 heures d'initiation à la permaculture, en famille ou non. Voilà, c'est vraiment le format qu'on a choisi pour cet été. Et puis, comme je disais, de toute façon, on peut tout simplement réserver une venue ou une visite. La visite libre est à prix libre, d'ailleurs. Et voilà, globalement, et on reçoit aussi
pour des événements où vous faites aussi des réceptions, des choses comme ça.
Ouais, on fait aussi des. Il y a des personnes qui peuvent venir proposer des choses au petit Bartotte. On a eu des ateliers, on a fait aussi plusieurs fêtes là-bas. entre jardin et musique, par exemple, le week-end dernier pour la fête de l'été. Et puis là, le prochain événement, ce sera le 5 juillet. Ça s'appelle Bloom Mama Experience. Et donc, c'est pour les futures mamans. Donc, il y aura du yoga, il y aura plein d'informations sur l'allaitement, sur la coparentalité, la respiration, etc. Donc, en fait, au jardin du Petit Bartot, on peut organiser tout plein de choses tant qu'on parle de régénération, et donc là, pas forcément que la régénération des sols et de la biodiversité.
La régénération des êtres humains aussi, puisque c'est une histoire au Petit Bartot du lien entre l'homme et la nature, finalement.
Absolument.
C'est ce qui nous a construit jusqu'ici, et c'est ce qui nous permettra de durer sur cette terre. Merci beaucoup, Julie,
plaisir.
Pour la qualité des échanges et pour le temps accordé à Souvenir FM, où j'espère qu'on aura donné envie aux auditeurs de mieux cultiver, de mieux penser le rapport au sol qu'il est important de régénérer en permanence. Donc merci, Julie. Votre partenaire du début d'émission, Laurie, nous a quittés un petit peu précipitamment, mais je salue tous les auditeurs également. Je le fais moi aussi. À une prochaine fois dans l'invité du 12-13. C'est l'heure de vous dire Adichat.